Chodesh Tov ou Mevorach. Alors cette semaine, c'était le 27 Nissan, c'était le jour de Yom HaShoah. Alors l'occasion, elle nous est donnée ici, de faire un lien entre ce jour-là et en particulier avec la vie de Charlotte Salomon. Charlotte Salomon, c'est une artiste peintre allemande qui est née à Berlin en 1917 et qui est partie à Auschwitz en 1943, à l'âge de 26 ans. Pourquoi on a choisi aujourd'hui d'établir ce lien-là entre Charlotte Salomon et l'enseignement du Dvar Malchut ? C'est parce que Charlotte Salomon a réalisé une œuvre très rapidement, en 18 mois. Elle a peint 1325 gouaches. Et c'est le titre qu'elle a donné à cette œuvre autobiographique, c'est Leben oder Theater, ça veut dire la vie, est-ce la vie ou est-ce du théâtre? C'est-à-dire que l'idée, c'est que cette peintre-là, cette artiste-là, elle a représenté dans ses gouaches, elle a dessiné, elle a peint tout ce qu'elle voyait, et elle était le témoin des persécutions à l'époque des fascistes, des nazis, qui persécutaient les juifs. Et dans ces gouaches, on peut voir, par exemple, l'arrestation de juifs, ou on peut voir des rassemblements de nazis. On peut voir donc un témoignage pictural de toute cette horreur qui s'est produite pendant la guerre et qui était dirigée essentiellement contre le peuple juif. Pourquoi donc on a établi ce lien avec le Dvar Malchut? C'est parce que ce titre-là, le titre que Charlotte Salomon a choisi, est-ce la vie ou bien est-ce du théâtre? Évidemment que ça signifie que ce qu'on voyait à l'époque, ce qu'elle a vu, ça semblait tellement irréel, ça semblait tellement au-delà de la réalité, d'assister à ces massacres, d'assister à ces horreurs. Elle se demandait même si c'était vraiment réel, à tel point qu'elle se demandait si c'était du théâtre. Pourquoi du théâtre? Parce que le théâtre, il a un caractère factice. Un acteur, il endosse un déguisement, il va s'habiller dans des vêtements qui ne sont pas les siens, et il va incarner un personnage, et après la représentation de la pièce de théâtre, il va retrouver le personnage qu'il est réellement, c'est-à-dire qu'il va enlever ses vêtements, son déguisement, si on peut dire, et il va mettre ses propres vêtements, il va retrouver sa vie, et il va retrouver la personne qu'il est véritablement. Donc on peut faire ici une comparaison entre le monde tel qu'il a été créé par Dieu. Et le monde tel qu'il a été créé par Dieu, c'est un simple reflet de la lumière et de l'essence divine. C'est-à-dire que la chassidoute a fait toujours, depuis le Baal Shem Tov jusqu'au Rabbi, la différence entre le Shem Elohim et le Shem Havayé. Le Shem Elohim, il représente le monde tel qu'il est créé. Le monde tel que Dieu y va au moyen de vêtements, comme c'est expliqué dans le Tanya, au moyen de dissimulation, de contraction, de tzimtzumim, il va habiller sa lumière dans un monde dans lequel on ne va pas percevoir le divin. C'est-à-dire dans un monde qui semble exister de par lui-même, un monde dans lequel Dieu il se cache. Donc c'est pour ça qu'on pourrait dire que le nom Elohim, le nom divin Elohim, on peut le faire correspondre au théâtre. Pourquoi le théâtre? Parce que justement le théâtre, c'est un univers qui ne laisse transparaître qu'un aspect de la réalité, mais qui ne représente pas vraiment la réalité. C'est comme un jeu de rôle avec des personnages, comme on l'a dit, qui se déguisent et qui vont jouer une scène. Donc le nom d'Elohim, on peut le faire correspondre avec le mot théâtre, ce mot-là que Charlotte Salomon va employer pour désigner le spectacle face à laquelle elle est témoin, le spectacle de, comme on l'a dit, de la guerre, alors que le nom d'Havayé lui-même, il désigne la vraie vie. C'est-à-dire, il désigne la lumière de Dieu qui ne s'habille pas dans le monde, la lumière de Dieu qui se cache, cette lumière qu'aucun œil n'a vue, cette lumière qui se dévoilera au moment du Mashiach, c'est-à-dire vraiment quand le monde, on pourra ressentir dans le monde, et chaque être humain, il pourra ressentir le lien qui l'unit avec son Père qui est dans le ciel. Donc ce nom-là qui a été choisi par Charlotte Salomon, ce titre-là pour désigner son œuvre, c'est « Est-ce la vie ou bien est-ce du théâtre ?» il fait donc directement allusion à ce principe-là, à ce concept divin qui est donné dans la partie profonde de la Torah et qui s'exprime par la différence entre le nom Havayé et le nom Elohim. On pourrait citer par exemple un enseignement qu'on répète souvent dans les cours du Rabbi Rachab. Le Rabbi Rachab, il a expliqué que quand un Rav, il donne un enseignement à son élève, alors il va utiliser un exemple. Il va utiliser un exemple qui est à la portée de son élève, quelque chose que l'élève, il peut comprendre. Mais la lumière telle qu'elle est dans l'esprit du Rav, il ne la dévoile pas. C'est-à-dire qu'il va faire descendre cette lumière qui est immense et qui est en lui-même, c'est la lumière du concept divin que le Rav a compris, mais il va la faire descendre, il va l'habiller dans un exemple. Seulement, l'enseignement, c'est que justement, à partir de cet exemple que le Rav va donner à son élève, l'élève, il peut remonter jusqu'à l'essence même de ce concept. Ça, évidemment, ça prend du temps. On dit qu'un élève, il a besoin de 40 ans pour comprendre vraiment ce que son Rav lui a enseigné. Mais l'idée, elle est que, justement, dans cet exemple-là, dans ces limites-là, on peut remonter jusqu'à l'essence même du concept divin. Et en fait, on doit comprendre que le monde dans lequel on vit, donc comme on l'a dit, qui est lié avec le nom d'Elohim, il est lui-même un exemple. Alors que la lumière de la délivrance et le monde tel qu'il nous apparaîtra au moment de la Géoula, il représente lui-même l'essence même, l'essence divine, comme il est allusionné donc dans ce titre-là que Charlotte Salomon a donné à son œuvre autobiographique, « La vie ». Est-ce la vie ou bien du théâtre ? Donc chaque juif, de sa mission, c'est vraiment de déceler les sens qui se trouvent dans chaque chose de la création. C'est de déceler le nom d'Havayé dans le nom d'Elohim. C'est la déclaration qu'on fait à la fin du jour de Kippour, quand on proclame à voix haute Havayé ou à Elohim. Ça signifie bien que on doit trouver au sein même des limites de ce monde, qu'exprime le nom d'Elohim, les sens divines qu'exprime le nom d'Havayé. Donc, la mission qui est donnée à chacun, c'est précisément celle-là. C'est précisément de savoir voir dans ce monde, de savoir retrouver la lumière qui se cache, la lumière supérieure, divine, qui se cache dans l'exemple, dans le monde, dans cette réalité qui nous apparaît et qui est finalement, qui ne représente qu'un aspect superficiel de la lumière divine qui se révélera au moment du Machiav. Alors, dans le Devant Malchut, sur les parachutes Tazria Metzora, le rabbi va nous enseigner que la lèpre, bien qu'elle soit fixée par la Torah comme un signe d'impureté, cache en réalité une très haute lumière. Il va nous donner l'exemple, un enseignement de son père, le Rav Levi Yitzhak, qui explique que le mot Ametzora, les noms Ametzora, l'expression Ametzora, qui signifie le lépreux, a pour valeur numérique 411. Et 411, c'est la valeur numérique du mot Keter, qui désigne la couronne qui surplombe l'enchaînement du monde. Donc on voit que la lèpre elle-même, qui présente et qui est fixée par la Torah comme un signe d'impureté, elle cache en elle-même une très haute lumière. Et finalement, c'est exactement ça le point qui nous intéresse ici et qui est justement dans le lien qu'on établit avec l'œuvre de Charlotte Salomon. Est-ce la vie ou bien est-ce du théâtre ? Ça veut dire que vraiment ce théâtre-là, cet exil qui nous apparaît vraiment à première vue comme quelque chose, comme un signe d'impureté, si on peut le dire, en réalité, il cache une très haute lumière. Comment ça s'exprime dans la vie de cet artiste ? Ça s'exprime par le fait, par exemple, que c'est son œuvre qu'elle a réalisée, 1325 gouaches, elle les a réalisées, elle les a peintes avec seulement 3 couleurs. Donc on voit qu'à partir de 3 simples couleurs, le rouge, le jaune et le bleu, l'artiste, elle va dessiner, elle va créer 1325 œuvres. Donc c'est exactement ça le rapport qui existe entre la limite et l'illimité. Le fait de, à partir des limites, c'est précisément dans les limites de ce monde qu'on peut parvenir jusqu'à l'illimité. C'est précisément au moyen de 3 simples couleurs qu'on peut réaliser une œuvre entière, une œuvre intègre, une œuvre totale. Mais surtout, et ce qui est important ici, c'est de comprendre la qualité essentielle qui nous permet d'unir les limites à ce qui est illimité, c'est la capacité de Messerud Nefesh. Alors on peut ici aussi illustrer cette capacité par la déclaration qu'elle a faite quand elle a remis, peu avant son arrestation, elle a remis ses 1325 gouaches à un ami proche, à un ami docteur, en lui disant de les confier ensuite à une amie qui les transmettrait à ses parents. Et quand elle a donné son œuvre, ses 1325 gouaches à cette personne-là, elle lui a dit garder les biens, c'est toute ma vie. Donc on voit ici que l'œuvre de cet artiste-là, il exprime vraiment le don de soi, le don total de sa propre existence. C'est la capacité de Messiro Nefesh. Comment un juif y parvient à unir les limites de ce monde avec ce qui est illimité, c'est précisément par le don de soi. C'est le fait de se donner entièrement dans l'œuvre de notre vie qu'on parvient vraiment à dévoiler la partie la plus profonde de notre âme, l'essence de notre âme, afin que celle-ci, elle va éclairer nos sentiments, et nos actions et les forces de notre intellect. On va parvenir de ce fait à unir la partie la plus profonde de notre âme avec notre âme. C'est un peu aussi l'enseignement du Tzemar Tzedek quand il a expliqué que le pain, il représente la nourriture qui nous permet d'unir la partie révélée de la Torah avec la partie révélée de notre âme. Alors que la manne, elle va nous permettre d'unir la partie profonde de la Torah avec l'essence de notre âme. Cette capacité de Messiro Nefesh, elle nous permet de briser toutes les limites. Elle nous permet de, à partir, comme cet exemple-là de cet artiste, à partir de trois couleurs, de créer une œuvre considérable. Son œuvre, elle exprime vraiment un spectacle qui est pourtant, malgré tout, qui est en lui-même l'horreur, et malgré tout, avec des couleurs, avec son cœur et avec son âme, elle parvient à donner une œuvre. Et donc là, on voit un enseignement qui revient sans cesse dans l'enseignement du Rabbi, dans le Dvar Malchut, et en particulier aussi dans le discours « Ve'ata tetzaveh » et « Tu ordonneras aux enfants d'Israël de t'apporter de l'huile pure, d'olive concassée pour allumer le luminaire. Le fait de presser une olive, on parvient à en extraire son huile, et de la même façon, on voit cet artiste-là qui est agressé de toutes parts, qui est persécuté toute sa vie, elle exprime la fuite face à un ennemi redoutable, et malgré tout, dans cette fuite-là, elle parvient à créer une œuvre considérable, une œuvre éternelle, l'œuvre d'une artiste, une artiste juive. Finalement, et pour conclure, ce qui est important ici de voir dans cet enseignement du Rabbi du Dvar Malchut et de voir à travers la vie de cet artiste-là, c'est de comprendre vraiment le point essentiel de l'enseignement du Rabbi et qui doit être le point essentiel de notre vie, c'est la force de la lumière qui provient de l'obscurité. L'exil n'a aucun pouvoir sur un juif si ce n'est celui de réveiller ses forces les plus profondes, à l'exemple d'un roi qui va puiser dans les trésors du palais pour gagner la guerre, pour acheter tout le matériel nécessaire pour gagner la guerre contre son ennemi. Un juif, il puise dans le trésor qui est en lui-même, c'est-à-dire dans son amour de Dieu et dans sa crainte de Dieu, la crainte supérieure, la crainte inférieure, l'amour supérieur, l'amour inférieur constitue vraiment le trésor de chaque juif. C'est au moyen de ces éléments, un juif, il est capable de briser toutes les limites, de parvenir à unir ce qui est illimité avec les limites de ce monde, c'est de parvenir à la délivrance, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, très prochainement. Shabbat Shalom, Omevorach.